Bonjour à tous. Pour introduire notre message de ce matin, je vous invite à regarder et écouter une petite vidéo. Je vais demander aux enfants de venir devant, comme ça ils verront mieux. Voilà, comme ça, c'est pour vous aussi la vidéo. Merci les enfants pour votre attention. Vous pouvez regagner vos places. Quelle histoire fantastique et merveilleuse où l'on apprend que Gédéon, choisi par Dieu pour combattre les Madianites, demande un signe pour confirmer que Dieu donnera la victoire aux Israélites pour ce combat à venir. Tout comme Gédéon, au cours de notre vie, nous avons des décisions à prendre, des combats à mener. Demander à Dieu de nous éclairer, de nous aider à faire le bon choix, acquérir la certitude que Dieu nous donnera la victoire, nous semble parfaitement légitime. Étaler une toison de mouton au sol et demander qu'au petit matin le sol soit sec et la toison humide semble difficile à obtenir. Mais Dieu donne une réponse claire en réalisant cette prouesse. Gédéon, pas forcément très convaincu par le résultat. On peut toujours imaginer qu'un animal errant quelconque pendant la nuit se soit quelque peu soulagé sur cette toison étalée et accueillante. Gédéon n'est pas convaincu. Je m'éloigne du texte de la Bible, excusez-moi. Cela suscite une nouvelle demande de sa part, plus difficile à réaliser. Que le sol soit humide par la rosée nocturne, voire même par une petite pluie rafraîchissante et bienfaisante, mais que la toison reste sèche. Au petit matin, bingo, le sol est humide, la toison est sèche. Gédéon se sent quelque peu conforté que Dieu sera à ses côtés pour la bataille qu'il doit mener, pour pour que les Madianites arrêtent d'empêcher les Israéliens de prospérer dans le pays de Canaan que Dieu leur donne. À partir de ce récit, on pourrait aisément développer un message sur la toute-puissance du Dieu de la création, capable de mouiller une toison en gardant le sol sec autour, ou de mouiller le sol et garder la toison sèche en l'espace d'une autre nuit. On pourrait développer un message sur comment acquérir la certitude de prendre la bonne décision en demandant à notre Père Tout-Puissant un signe extraordinaire pour nous éclairer dans nos choix. L'un ou l'autre, en cherchant bien, trouvera des situations dans sa vie personnelle où Dieu a donné un signe, une réponse au petit matin après une bonne nuit de repos, un encouragement à aller de l'avant, du courage pour livrer une bataille. Une histoire simple, une intervention divine spectaculaire, une double réponse sans ambiguïté. Mais l'auteur de la vidéo nous invite à lire l'histoire de Gédéon dans la Bible. Voyons d'abord le contexte. Dieu a permis que le peuple d'Israël soit libéré de l'esclavage en Égypte, comme nous avons déjà pu le lire tout à l'heure. Dieu a donné le pays de Canaan pour que son peuple s'y installe. Josué vient de fixer la répartition des territoires pour chacune des 12 tribus d'Israël. Et même si Dieu a donné le pays à son peuple, il fallait maintenant le conquérir, prendre possession du territoire pour s'y installer et faire prospérer les familles israélites. Dieu a donné la loi que Moïse a transmise pour que le peuple d'Israël reflète le caractère même du Dieu de la création. Selon la promesse faite à Abraham, que ses descendants forment une nation exemplaire qui reflète la bonté de l'Éternel et soit en bénédiction pour toutes les nations de la terre. Il s'agit bien, dans le récit biblique, d'un peuple constitué de personnes, d'une nation organisée, avec des lois inspirées par la bonté de Dieu, et d'un territoire physique où les familles sont appelées à mettre en valeur le pays pour le bien-être de tous. Pour que ce projet se réalise, Dieu demande simplement de l'obéissance et de la fidélité au regard de toutes ses prescriptions et surtout du rejet des idoles, des autres dieux et de la prise en compte des besoins des plus faibles, les veuves, les orphelins, les pauvres, les étrangers qui font partie de la société. Nous lisons dans Juges 2, les versets 10 à 23. Pardon. Donc Josué vient de décéder, donc c'est une page qui se tourne, une nouvelle histoire qui commence. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères, et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel et ils servirent les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et ils allèrent après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux et ils irritèrent l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel et ils servirent Baal et les Astartés. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les livra entre les mains de pillards qui les pillèrent, il les vendit entre les mains de leurs ennemis d'alentour, et ils ne purent plus résister à leurs ennemis. Partout où ils allaient, la main de l'Éternel était contre eux pour leur faire du mal, comme l'Éternel l'avait dit, comme l'Éternel le leur avait juré. Ils furent ainsi dans une grande détresse. L'Éternel suscita des juges afin qu'ils les délivrent de la main de ceux qui les pillaient. Mais ils n'écoutèrent pas même leurs juges, car ils se prostituèrent à d'autres dieux, se prosternèrent devant eux. Ils se détournèrent promptement de la voie qu'avait suivie leur père, et ils n'obéirent point comme eux au commandement de l'Éternel. Lorsque l'Éternel leur suscitait des juges, l'Éternel était avec le juge, et il les délivrait de la main de leurs ennemis pendant toute la vie du juge. Car l'Éternel avait pitié de leurs gémissements contre ceux qui les opprimaient et les tourmentaient. Mais à la mort du juge, ils se corrompaient de nouveau, plus que leur père, en allant après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux, et ils persévéraient dans la même conduite et le même endurcissement. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il dit, « Puisque cette nation a transgressé mon alliance que j'avais prescrite à ses pères, et puisqu'ils n'ont point obéi à ma voix, je ne chasserai plus devant eux aucune des nations que Josué laissa quand il mourut. C'est ainsi que je mettrai par elle Israël à l'épreuve, pour savoir s'ils prendront garde ou non de suivre la voie de l'Éternel comme leurs pères y ont pris garde. » Et l'Éternel laissa en repos ces nations qu'il n'avait pas livrées entre les mains de Josué, et il ne se hâta point de les chasser. D'une manière générale, Dieu ne demande pas à son peuple des choses irréalisables ou impossibles. Simplement, se souvenir que Dieu, dans sa bonté, a libéré Israël de l'oppression du Pharaon en Égypte, et que le seul Dieu qui mérite d'être adoré, honoré et respecté est le Dieu de la création, le Dieu qui a choisi Abraham, dont la descendance devient un peuple qui doit refléter le caractère du Dieu éternel. Dans toute cette histoire de la conquête du pays de Canaan, les Israélites ont alterné les pires moments d'oppression et de misère avec des périodes de repentance, suivies de combats de libération victorieux, des années paisibles et à nouveau du laisser-aller en adoptant les mœurs socioculturelles des païens cananéens. Les dieux cananéens, les Baal et les Astartés, étaient complètement à l'opposé du culte voulu par Dieu pour son peuple. Autour du culte de ces dieux païens, il fallait offrir des sacrifices, y compris des sacrifices humains, pour s'assurer une bonne récolte. Il y avait beaucoup de mœurs condamnables pour assurer la fécondité du bétail et de la famille. Israël n'avait pas besoin de cela. Les promesses de Dieu étaient suffisantes pour que la nation d'Israël puisse prospérer dans ce territoire où coulent le lait et le miel. Chasser les Cananéens devait prévenir le peuple de Dieu de la corruption morale, de la tentation de devenir idolâtre comme les Philistins, les Cananéens, les Sidoniens et les Éviens qui sont cités dans le texte. Mais le peuple de Dieu adopte les pratiques culturelles et religieuses des contemporains autochtones et la décadence survient comme promis. Dieu livre son peuple à l'oppression, à l'oppresseur, et quand l'oppression devient insupportable, les Israélites reconnaissent leur péché, leur désobéissance et leur infidélité envers le Dieu qui avait libéré le peuple de l'esclavage. Une démarche de repentance, une démarche de conversion amène Dieu à choisir un libérateur qui conduit la bataille victorieuse et débouche sur une période de paix et de prospérité. Le cycle est infernal et, à chaque fois, on a l'impression que le « chacun pour soi » dans la période de prospérité amène à des situations encore plus décadentes et des mœurs dissolues. Le livre des juges décrit des scènes horribles et compte énormément de morts, aussi bien du côté israélien que du côté cananéen. Pour le peuple de Dieu, ne pas se souvenir de la loi de Moïse et de la bonté du Créateur l'exposait à un jugement et une punition annoncée à l'avance. Les Cananéens, idolâtres invétérés, bagarreurs primitifs au service de chefs de clan despotiques, auraient pu reconnaître, si Israël était resté en phase avec Dieu, avec le projet de Dieu, que le Dieu d'Israël était le seul Dieu digne d'adoration au travers de l'organisation exemplaire politique, militaire et économique de la nation. Revenons à Gédéon. C'est l'époque où les Madianites, en fait lointains cousins des Israélites, puisque descendants d'Abraham également, terrorisent les Israéliens et raflent les récoltes année après année depuis 7 ans. Au verset 6 du chapitre 6, nous lisons « Israël fut très malheureux à cause de Madian et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. » Et la réponse de l'Éternel envoie un prophète. Nous lisons dans Juges 7 au verset Juge 6, verset 7 à 10. Ah,
Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, mais vous n'avez pas écouté ma voix. Un peu plus loin, le texte raconte que l'ange de l'Éternel vient à la rencontre de Gédéon alors que celui-ci est en train de battre le peu de blé qui a pu être sauvé dans un lieu insolite, le pressoir, en fait pour ne pas attirer l'attention des Madianites. L'ange de l'Éternel lui annonce, au verset 12 du chapitre 6, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Tout de suite, la réflexion humaine au premier degré de Gédéon. Si Dieu est avec nous, pourquoi tous ces malheurs nous arrivent-ils ? L'ange n'insiste pas. De toute façon, le prophète avait déjà donné la réponse. C'est parce que vous n'avez pas écouté, vous avez été désobéissant et infidèle. La réponse est, au verset 15, « Va, avec la force que tu as, et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Gédéon doute de sa mission et déjà il demande un signe qui prouve que c'est bien l'Éternel qui lui parle. Il prépare un chevreau et des pains, les pose sur le rocher indiqué par l'ange de l'Éternel et au contact du bâton de l'ange, le feu consume l'offrande et l'ange de l'Éternel disparaît aux yeux de Gédéon, complètement paniqué par cette rencontre. Mais Dieu prend soin de lui. Au verset 23, Dieu lui dit « Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. » Et Gédéon renoue avec les bonnes pratiques en bâtissant un autel à l'Éternel. Avant la grande bataille de libération, il convient d'attaquer les symboles du paganisme au sein même de sa propre famille. L'autel de Baal est le pieu sacré de la propriété familiale doit être abattu et un sacrifice conséquent, quand même de taureaux, doivent être offerts à l'Éternel. Un peu trouillard, avec la crainte d'opérer en plein jour, Gédéon, avec une dizaine d'hommes, exécute cette mission de nuit. Le lendemain matin, Gédéon est recherché pour être mis à mort. Mais du coup, son père le défend et suggère dans un sursaut de lucidité, on peut lire ça au verset 31, « Si Baal est un dieu, qu'il plaide lui-même sa cause. » Et Gédéon devient un leader légitime pour mener le combat contre les Madianites oppresseurs du peuple de Dieu. Il rassemble une armée nombreuse pour livrer bataille et le doute s'installe à nouveau. Gédéon a de nouveau besoin de savoir si l'Éternel va combattre à ses côtés et c'est l'épisode de la toison, une fois mouillée et cela ne suffit pas, une fois sèche. À ce stade de l'histoire, on commence vraiment à se demander si Gédéon n'est pas une erreur de casting pour mener le combat. À moitié dépressif, pas très courageux. En proie permanent au doute, malgré les promesses et les paroles de l'Éternel à son égard. Est-il vraiment l'homme de la situation ? 32 000 combattants de différentes tribus se préparent pour livrer le combat. Et, heureusement, c'est l'Éternel qui reprend en main la stratégie, avec une belle pointe d'humour néanmoins, après avoir permis le prodige de la toison humide et sèche. Trop nombreux les combattants. Que ceux qui manquent de courage rentrent chez eux. Sur les 32 000, il n'en reste que 10 000. Encore trop nombreux. L'Éternel propose de trier les combattants au bord de la rivière suivant la façon dont les uns et les autres portent l'eau à leur bouche. Encore une belle pointe d'humour. On remarquera au passage que le critère de sélection des 300 combattants restant ne fait pas appel à la force et au courage humain, ni à leur abnégation ou à leur sens du sacrifice pour libérer le pays, c'est simplement la façon dont ils amènent l'eau à leur bouche qui va permettre le tri. L'Éternel est clairement le stratège du combat pour libérer le peuple de l'oppression. Une fois de plus, lorsque le péché est reconnu, lorsque la repentance est sincère, lorsque les idoles sont renversée et abandonnée, la bonté de Dieu, la bonne nouvelle de la rédemption peut à nouveau s'exprimer. Avant de livrer bataille, Gédéon cherche des informations sur l'état d'esprit de ses adversaires. Dieu l'envoie pour une séquence d'espionnage, avec le détail intéressant que, parce qu'il connaît parfaitement Gédéon, au verset 10 du chapitre 7, on lit « Si tu n'as pas le courage d'y aller seul, emmène ton serviteur Pura. » Le camp ennemi, malgré leur nombre et leur équipement militaire dernier cri, pressente que le combat sera non conventionnel, mais n'imagine pas le scénario. De nuit, 300 hommes équipés de trompes, de cruches vides et de flambeaux, vous remarquerez aucune épée, aucune armure, aucun char de combat, créent la panique chez l'adversaire et les Madianites affolés, désorganisés, de nuit, s'entretuent et déguerpissent dans un chaos indescriptible. Massacre et décapitation, rivalité interne, fidélité et trahison, la fin de la bataille redevient interhumaine. Dieu a donné la victoire à Israël avec une stratégie subtile et efficace, mais Gédéon ne s'arrête pas là et poursuit les fuyards vaincus pour les massacrer et en décapiter certains. Ouf, le calme revient dans le pays. Gédéon refuse le pouvoir que les hommes d'Israël veulent lui confier. Au chapitre 8, verset 10, il dit « Je ne dominerai point sur vous, et mes fils ne domineront point sur vous. C'est l'Éternel qui dominera sur vous. » Dans la foulée, Gédéon crée un monument avec le butin de guerre qui deviendra un objet des prostitutions de tout Israël. Au chapitre 8, verset 27. Et les Madianites, ou ceux qui l'en restaient, ne lèveront plus la tête et le pays fut en repos pendant 40 ans. À travers ce récit biblique, nous apprenons beaucoup sur qui Dieu est et sur qui les humains sont. Dieu est le Dieu éternel, le Dieu de la création. Les humains, ce sont ces créatures qui ont décidé de se révolter, de se rebeller contre lui. Mais Dieu a un projet à long terme de restauration, de rédemption, de réparation de ce qui dysfonctionne sur terre et dans nos vies. Le récit biblique nous permet de nous situer dans le temps par rapport à ce projet divin de restauration de toutes choses. Israël était réduit en esclavage par le pharaon égyptien. Dieu a permis la fin de cette souffrance. Il a donné sa loi pour que cette nation d'Israël devienne exemplaire et puisse être, encore une fois, une source de bénédiction pour toutes les nations de la terre. Mais dès l'origine, Dieu savait que ces hommes étaient pleins de failles, envahis par la peur, le doute, l'infidélité, l'égoïsme, l'état dépressif, l'envie de ne rien faire, etc. Mais Dieu met en œuvre son projet et continue de travailler avec les humains. Alors l'histoire du jour n'est pas du tout de nous enseigner comment savoir si Dieu est à nos côtés pour combattre l'injustice et l'oppression en posant une toison de moutons sur le sol pendant la nuit. L'histoire du jour ne donne pas des astuces pour discerner la volonté de Dieu, mais cette histoire nous parle de l'engagement de Dieu à utiliser des hommes ou des femmes faibles et imparfaits pour accomplir des choses qu'on n'aurait même pas imaginées. Comme Gédéon, nous pouvons aller, avec la force que nous avons, pour entrer dans le projet de Dieu. D'abord, se souvenir que Dieu nous offre une occasion de nous libérer de l'esclavage du péché. Nous devons écouter ceux qui parlent du projet de Dieu, ceux qui rappellent les promesses de bénédiction et de malédiction en rapport avec nos actes et nos préoccupations. Entrer dans la présence de Dieu et entendre cette parole comme Gédéon l'a entendue. Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Il faudra alors renverser, renoncer à nos idoles, nos faux dieux, comme la connaissance scientifique, la technique, l'ingénierie, qui trouvent toutes sortes de solutions à des problèmes que nous ne nous posons pas. Il faudra consentir à faire des sacrifices pour renouer avec les bonnes pratiques que Dieu agrée. Il faudra laisser la direction stratégique à notre Père Céleste, ne pas mener le combat seul. Gédéon a mobilisé une dizaine de serviteurs pour détruire les symboles du paganisme, Son père lui a sauvé la vie lorsqu'il était menacé. Il s'est fait accompagner dans son intrusion chez l'ennemi pour chercher des renseignements avec son serviteur. Il a mené le combat avec 300 hommes que Dieu a permis de sélectionner. Aujourd'hui, comme du temps de Gédéon, nous constatons des dysfonctionnements dans nos sociétés et nous nous en accommodons. Le repli sur soi, nos craintes, la complaisance par rapport aux injustices font de nous des humains à qui Dieu voudrait confier des missions pour faire avancer son projet de restauration, de nouvelle création de cette nouvelle Jérusalem où nous vivrons en paix, dont parle l'apôtre Jean dans le dernier livre de la Bible. Permettez-moi d'insister une dernière fois sur l'équipement des 300 combattants de Gédéon. Des hommes à pied, sans armure massive, avec une trompe, une cruche et un flambeau. Ils sont face à des guerriers aguerris, avec épées, boucliers, lances, chevaux et chars de combat. Imaginez au contraire que les 32 000 hommes aient engagé la bataille de manière traditionnelle, selon les techniques de combat de l'époque. Les pertes humaines auraient été bien plus importantes et Israël aurait été affaibli pour longtemps. Cette remarque simplement pour souligner que ce n'est pas la course à l'armement qui donne la victoire, mais des techniques subtiles, non violentes, méritent d'être mises en œuvre, y compris de nos jours. Pour conclure, la bonne nouvelle de la parole de Dieu, c'est que Dieu est bon pour les humains, malgré leur faiblesse, malgré leur infidélité, malgré leur peur. Dieu a tout donné pour que la vie sur terre soit paisible. La création fonctionne. Faisons attention de ne pas la faire dysfonctionner par nos modes de vie. Dieu a donné la loi dans l'Ancien Testament pour que la société, la nation, tienne compte du bien-être des plus faibles et d'une répartition équitable des richesses matérielles. Dieu a donné un territoire, un pays à son peuple, pour qu'ils puissent prospérer et interpeller les autres nations pour qu'elles accèdent à la connaissance de l'Éternel. Comme les prophètes l'ont annoncé au cours de l'histoire d'Israël, Dieu a donné son Fils Jésus pour habiter parmi les humains et nous aider à comprendre, à mettre en pratique les préceptes de la loi de l'Ancien Testament. À côté du peuple d'Israël a émergé un nouveau peuple de Dieu, l'Église chrétienne dans toute sa diversité. Jésus nous libère de l'esclavage du péché. Nous sommes appelés à suivre son enseignement et cela nous amène à livrer des combats contre nous-mêmes et nos faiblesses, contre l'oppression et les injustices, contre le paganisme ambiant. Allons, avec la force que nous avons, soyons à l'écoute et laissons les commandes de la stratégie du combat à notre Père Céleste. Amen.